Je lisais cette semaine un article qui m'a fort dérangée. En Chine, nous dit-on, l'espionnage étatique des téléphones gagne du terrain. En fait, c'est dans pratiquement tout le pays maintenant que les policiers peuvent traquer la dissidence et écouter qui ils veulent, avoir accès sur les téléphones d'à peu près tout le monde, aux contacts, aux textos qui ont été échangés, de même qu'aux appels. Une façon de faire qui peut nous paraître bien inquiétante, et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça se fait ici? Alors, on a invité un professionnel pour nous en parler. C'est notre référence ici à Radio Cogeco en la matière. Il est expert en cybersécurité et aussi ancien officier de sécurité informatique au ministère de la Défense. Steve Waterhouse, bonjour.
Bon matin.
Bon, il n'y a rien dans ce que j'ai dit qui te surprend, toi, Steve?
Pas tellement. Non. C'est juste encore une fois une révélation et c'est une mise à jour qu'on peut se faire sur qu'est-ce qui se dit depuis beaucoup d'années, mais tout ça en arrière-plan. Mais là, ça prend beaucoup plus d'importance parce que là, ça vient toucher le quotidien de monsieur et madame tout le monde.
Bon, et là ce qu'on va révéler, c'est pas du nouveau, mais ça fait peur, là, Steve. Parce que ce qu'on fait précisément en Chine, raconte-nous, là, comment on procède et ce que cette machine-là nous permet d'avoir comme information sur à peu près tout le monde. Là.
Oui, ça fait quelques années que ce genre d'appareillage-là existe dans le domaine technique et les policiers, à travers le monde, s'en servent lorsqu'il y a une enquête et doivent faire une expertise sur la pièce d'équipement, que ce soit un portable, un disque dur externe, un téléphone intelligent maintenant ou une tablette. Et le but là-dedans, c'est d'être capable d'avoir accès à l'information, défier toute protection personnelle qui est là-dessus. Puis on a vu, quand il y a eu le cas il y a 2 ans avec le cas de San Bernardino, où ce que il y avait le challenge entre le terroriste, le présumé terroriste,
oui,
puis après
oui,
ça, Apple, pour décoder, ouvrir la porte.
Ça, c'était la GRC, là?
Non, c'est le FBI. Qui, là, il est en...
Ah, c'est aux États-Unis?
Oui, aux États-Unis, puis il est en litige avec Apple pour dire c'est que la vie privée versus la sécurité nationale pour être capable d'avoir les clés et débarrer le téléphone. Fait que là, on a un État, qui est la Chine dans ce cas ici, qui se permet à ce moment-là, sur un soupçon, d'aller aborder un citoyen et après coup, prendre le téléphone, le mettre dans son appareil et d'après ça, complètement y avoir accès et exploiter les contacts, les photos et tout l'historique d'aller zioter l'Internet, donc son historique de navigation.
Et c'est quoi cette machine-là? On entend souvent parler de Stingray.
Ça, c'est pour l'interception cellulaire. Puis on a eu quelques cas là, en avril de 2017 avec Ottawa-Montréal. Ça, c'est pour l'interception d'une conversation cellulaire, les textos, etc. Là, ce que je parle, c'est vraiment un appareil qui va faire une expertise physique sur le téléphone cellulaire et après ça, avoir accès au contenu et on remet le téléphone à la personne.
OK, c'est 2 machines différentes.
Complètement, pour deux usages différents et distincts. Fait que là-dessus, autant les services de l'ordre ici, ils l'ont, ils peuvent faire ces expertises-là dans le cadre d'une enquête, mais c'est spécifique avec un mandat qui lui est attaché. Ça, c'est la différence entre qu'est-ce que l'État en Chine fait de façon totalement aléatoire, mais évidemment, ils ont des bonnes idées où ce qu'ils veulent aller cibler l'information, alors qu'ici, les policiers doivent la faire avec mandat.
Avec mandat, mais je lisais aussi que à moins qu'il y ait une situation d'urgence. Qu'est-ce que c'est une situation d'urgence?
Là, c'est large.
Là où la ligne est mince. Hein?
Est mince et c'est très flou. Faut qu'il y ait à ce moment-là de débat pour dire, hey, c'est urgent, faut qu'on ait accès, etc. C'est pas clair. Puis je suis sûr qu'il y aurait des juristes qui pourraient à ce moment-là en parler davantage que qu'est-ce que j'en sais de mon côté parce que là, on tombe dans le légal pur. Mais côté technique, ça demeure qu'il y a toujours ce débat-là dans la collectivité technique hein, et les grandes compagnies de ce monde sur l'accessibilité à de l'information dans un contexte urgent versus la protection de la vie privée du citoyen, de tout le monde qui utilise le service.
Bon, là, c'est sûr qu'en Chine, c'est autre chose là, parce que tout le monde est surveillé ou à peu près en Chine. Mais qu'est-ce qui te fait rire, Steve?
Ben, c'est parce qu'il n'y a pas juste la Chine qui fait des programmes, qui a des programmes de surveillance comme ça. Je vais te surprendre, je veux dire, en Australie, il y en a, en France, en Suisse aussi, ils ont un programme de surveillance comme ça de la collectivité. Aux États-Unis, on le sait très bien. En Angleterre aussi, la Suède. Donc, un paquet de pays comme ça dans le monde que c'est peut-être mal connu, mais ils ont de ces programmes-là de surveillance, non pas comme la Chine aussi agressif d'aller aux citoyens qui débarquent de l'autobus ou bien un touriste lorsqu'il entre au pays, ils ont un soupçon sur des possibles affiliations, prend le téléphone, implante un logiciel de traquage à l'intérieur puis laisse aller le touriste. Ça, c'est des cas qui ont été documentés qui font en sorte que, oui, il faut se gratter la tête, c'est-tu un besoin réel? Mais là, on est des visiteurs dans un pays, c'est pas un droit, c'est un privilège, il faut toujours se le rappeler. Tout comme à la frontière, lorsqu'on se présente aux États-Unis pour aller en vacances ou tout simplement une fin de semaine d'escapade, le doyen américain, il a droit de vie ou de mort sur le téléphone. S'il vous demande d'avoir accès au téléphone, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons de croire que vous êtes peut-être quelqu'un à risque pour la sécurité nationale des États-Unis, entre guillemets, on ne peut pas s'ostiner bien avec eux autres. Là.
Steve, est-ce que le jour où on va vouloir se départir de notre téléphone parce qu'il va être devenu notre ennemi, est-ce que ce jour-là pourrait arriver? Est-ce que dans 10-15 ans, on va revenir aux lignes dures pour se protéger de ça, peut-être?
C'est une décision personnelle. Ouais. Rendu, on peut le faire immédiatement, prendre cette décision-là de se départir de cette technologie mobile et dire, ben oui, si vous voulez me rejoindre, voici mon numéro à la maison. C'est toujours présent, sauf que la facilitation que la technologie nous amène, je veux dire, les services chinois encore, ils ont été de l'avant, puis là, maintenant, ils classifient le citoyen avec un numéro, un pointage social, et c'est comme ça qu'ils disent que lui, c'est un meilleur citoyen qu'un autre, puis que ça l'amène à ces fouilles-là. La reconnaissance faciale aussi, on en a parlé il y a quelques semaines.
Oui, tout à fait.
Et là, les policiers se promènent avec des lunettes avec de la reconnaissance faciale, ce qui n'empêcherait pas non plus les policiers ici, avec le caméra sur leurs uniformes, d'être capables d'associer la caméra avec une reconnaissance faciale en arrière-plan. Il y a tout un débat encore là sur l'invasion dans la vie privée. Ça veut-tu dire que sur la rue, il va falloir toujours se déguiser, au même titre qu'il faut se laisser aller notre téléphone, puis on retourne aux pagettes, puis à la téléphonie conventionnelle? Ça, c'est des bonnes questions.
Est-ce
des
que tu en as un cellulaire, toi?
Absolument.
Ouais, tu t'en sers, tu textes et tout?
Absolument.
Est-ce qu'il y a des choses que tu... Dont tu parles jamais sur ton téléphone?
Absolument. Okay. Il y a des photos qui ne vont jamais là-dessus.
Ouais,
il y a des textos qui ne paraîtront jamais là-dessus. Et il y a de la documentation que je fais de travail que jamais ça va sur mes médiums électroniques. Ça se fait toujours avec un pad de papier comme que j'ai ici avec moi. Puis comme ça, je suis certain que, un, personne vient épier, et deux, si quelqu'un veut me subtiliser mes notes, mes manuels que je prends, bien, il va falloir qu'il le fasse physiquement.
Mais il y a trop peu de gens qui font ça, malheureusement. Mais non, mais je comprends. Il faut penser à ça.
Est-ce que vous avez gardé un téléphone conventionnel à la maison?
Absolument, mais je peux vous dire, j'en suis victime de la modernisation. Parce que la technologie de voix sur IP a fait en sorte que la technologie n'a pas suivi le besoin. Fait que j'ai subi récemment, cette semaine, il y a eu une panne d'électricité dans la Montérégie, et ça a été 12 heures sans service de téléphonie. Et tout ça à cause que il y a des éléments technologiques qui n'ont pas suivi, puis que le fournisseur de téléphonie n'a pas pensé bon de faire un entretien avec le temps. Fait que là-dessus, là, c'est un aspect où c'est bien le fun, la téléphonie sur IP. La première étape où c'était la téléphonie sur IP, c'est de sauver en longue distance, puis être capable de passer par le réseau de data pour faire ça. Mais ça a été révolu, cela, assez vite. Puis maintenant, on est vraiment, j'appelle ça, on est dans une posture de faiblesse technologique, puis si on veut revenir en arrière avec une téléphonie conventionnelle, avec une ligne de cuivre et tout ça, c'est mauditement plus difficile.
Bon, écoute, Steve, merci beaucoup de ta visite ce matin. C'est jamais rassurant de parler avec Steve, mais c'est éclairant quand même.
Merci de préciser.
Bonne fin de journée. Alors, Steve Waterhouse est expert en cybersécurité et ancien officier de sécurité informatique au ministère de la Défense, et c'est un collaborateur régulier de Radio Cogeco.